Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, et se faire une grâce nouvelle. Renouvellerez la face de la terre. Prions, mon Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai oublié Saint Jérôme. Priez pour nous. Saint Jérôme est le patron des exégètes. C'est pour ça qu'on le prie avant l'étude de l'Évangile. Donc nous en sommes en Saint Matthieu, chapitre 13, verset 44. Sur le deuxième polycopier, troisième polycopier, pardon, polycopier, Saint Matthieu, chapitre 11 à 15, c'est à la page 28. Donc nous sommes dans les paraboles du royaume des cieux. C'est une série de petites paraboles que notre Seigneur Jésus-Christ va expliquer pour donner une comparaison entre les choses importantes de la terre qu'on recherche et les choses encore plus importantes qu'on devrait rechercher, qui sont les choses du ciel. C'est tout le drame, si vous voulez. C'est que les gens aujourd'hui dans le monde moderne n'ont plus compris que les choses vraiment importantes sont les choses du ciel. Ils ont complètement oublié ces choses-là. Alors du coup, eh bien, ils se vautrent dans les plaisirs matériels parce qu'ils n'ont rien d'autre. Ils se vautrent dans les plaisirs matériels parce que pour eux, après la mort, il n'y a plus rien. Il y a le trou du cimetière, mais c'est tout. Alors, au contraire, pour un catholique, tout commence avec la mort. C'est la mort qui décide de l'éternité, soit une éternité de bonheur au ciel, soit une éternité de malheur en enfer. Alors, voyons cette parabole, verset 44, chapitre 13 de Saint Matthieu. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Et l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va, vend tout ce qu'il a, achète ce champ. Et plus ce trésor qu'il a découvert dans un champ, plus ce trésor est important, plus il va se précipiter pour acheter le champ qui contient le trésor. Plus le trésor est important, plus il se dépêche, si vous voulez, et accepte de vendre même des choses qui pourraient passer comme étant des choses très importantes. Parce qu'il a trouvé quelque chose d'encore plus important que les choses matérielles. C'est l'idée. Qu'il y a toutes ces petites paraboles, que les choses du ciel sont bien plus importantes que les choses d'ici-bas, et qu'il vaut beaucoup mieux vendre les choses d'ici-bas pour gagner les choses du ciel que de garder les choses d'ici-bas pour perdre les choses du ciel. Le trésor, disent les pères, donc se trouve sans qu'il en coûte rien, car la prédication de l'Évangile est sans condition. Mais il faut nécessairement acheter le droit d'user de ce trésor, d'en devenir le possesseur ainsi que du champ qui le renferme. Le Seigneur explique bien par ces petites paraboles que la possession de ce trésor ou de cette perle d'un grand prix qu'on a trouvée, eh bien, cette possession coûte. On ne va pas l'avoir comme ça sans payer quoi que ce soit. Il faut payer et payer très cher pour l'avoir. Donc il faut être prêt à donner beaucoup de choses pour obtenir les choses importantes. Et il faut mettre sur un plateau de la balance toutes les choses secondaires pour obtenir la chose importante. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je pense que c'est le moment de le redire, le travail du démon, de faire croire que les choses importantes ne sont pas importantes et de faire croire au contraire que les choses qui n'ont aucune valeur sont en fait des choses très importantes. Et donc le démon va amonceler dans l'âme des fidèles des choses sans importance pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses importantes. Ces systèmes des vastes communicants, si vous voulez, qu'une chose puisse rentrer dans un lieu, il faut qu'il y ait déjà plein de babioles. Il faut sortir certaines babioles pour laisser de la place à la chose que vous voulez rajouter dans la pièce. Et si vous voulez faire rentrer dans votre âme le bon Dieu et que votre âme est pleine de choses du monde, il n'y a pas de problème, ça ne peut pas se passer comme ça tout seul. Il va falloir faire sortir des choses du monde pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse trouver place chez lui, dans son âme, c'est lui qui l'a créé, notre âme. Il faut donc nécessairement acheter le droit d'utiliser ce trésor et d'en devenir le possesseur ainsi que du champ qui le renferme. Donc il faut racheter le champ et le trésor, car on ne peut posséder les richesses du ciel sans être disposé à leur sacrifier les biens de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit plusieurs fois dans l'Évangile sous différentes façons. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc il y a un choix à faire. Celui qui n'est pas avec moi disperse. Donc si on veut notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme, bien, il faut mettre le démon dehors. On ne peut pas avoir dans notre âme les deux choses. Et c'est tout le problème du libéralisme actuel, cette espèce de fausse philosophie qui consiste à vouloir plaire à tous les dieux en même temps, les faux dieux et le vrai Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, encore une fois, le dit expressément notre Seigneur. Donc il y a un choix à faire, on ne peut pas tout avoir, c'est impossible. On ne peut pas jouir des choses de ce monde ici-bas et après jouir tranquillement des choses du paradis après la mort. Il y a un choix à faire. C'est l'histoire très connue, la méditation extrêmement connue des deux étendards. On retrouve toujours cette grande méditation de Saint-Ignace qui est au centre des exercices de Saint-Ignace, juste après les confessions, la méditation des deux étendards, après la Christ roi, il y a les deux étendards, c'est-à-dire soit notre Seigneur Jésus-Christ, son étendard, c'est la pauvreté, c'est l'humilité, c'est la charité, c'est l'acceptation des humiliations, soit c'est l'étendard du démon au contraire, avec les richesses, avec les honneurs, avec l'orgueil. C'est tout ce que propose le monde moderne, tout ce que propose la franc-maçonnerie. Quand vous voulez entrer dans la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous propose les honneurs, les richesses et l'orgueil. Si au contraire vous voulez suivre notre Seigneur Jésus-Christ, ben, ce sera la pauvreté, ce sera les humiliations, le mépris et l'humilité contre l'orgueil. On achète le champ avec le prix de tous les biens qu'on a vendus. Lorsqu'on renonce aux voluptés charnelles et qu'on foule aux pieds tous les désirs terrestres par une obéissance entière aux lois qui conduisent au ciel. Et la phrase est claire. Lorsque l'Évangile dit l'homme qui a trouvé le trésor caché dans un champ, il va, il vend tout ce qu'il a, il achète ce champ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour posséder les choses qui durent, les choses spirituelles, les choses éternelles, il faut vendre les choses, il faut donner et se débarrasser des choses temporelles, des choses qui passent. On ne peut pas prétendre aller au ciel et en même temps jouer confortablement de toutes les joies que propose le monde moderne. Il y a un choix à faire encore une fois. Et donc, cet homme qui a trouvé le trésor et qui vend tout ce qu'il a représente justement celui qui a compris que les choses importantes sont celles qui ne passent pas, les choses éternelles du ciel, et qui acceptent pour cela de se débarrasser de toutes les choses matérielles pour faire de la place pour les choses éternelles. C'est le fond du problème. C'est pour cela qu'on a tellement de mal dans le monde moderne à se convertir, parce que les gens sont tellement, tellement abîmés, si vous voulez, par les choses du monde moderne, qu'ils sont plus capables de se passer de ces choses modernes, parce que le démon leur a mis dans la cervelle que ces choses modernes, c'était tellement important qu'on ne peut plus vivre sans elles. J'ai lu il y a quelques jours, là, un petit article qu'on m'a envoyé, que j'ai trouvé, je ne sais plus trop où, qu'une association, je ne sais pas si c'est vrai, mais proposait 100 000, 100 000, 80 000 euros, 100 000 dollars, à des personnes qui étaient capables de vivre sans téléphone smartphone, sans téléphone intelligent, comme on appelle aujourd'hui, pendant 1 an. Et je pense que c'est un exemple. Bon, bien sûr, c'est pas un péché d'avoir un téléphone portable, mais de ne plus pouvoir s'en passer, c'est la preuve d'un esclavage. Et l'esclavage, comme on dit vulgairement, on est obligé d'avoir une idole. peut pas vivre, l'homme peut pas vivre sans idole, c'est impossible. Il faut qu'il adore quelqu'un. Ou il adore le vrai Dieu, ou il adore un faux Dieu. Ou il met notre Seigneur Jésus-Christ à la première place dans son cœur, et à ce moment-là, le démon est à la dernière place, et est obligé de partir. Ou il met le démon à la première place, et dans ce cas-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est obligé de partir. Et qu'on vienne pas nous dire ce qu'on entend beaucoup trop souvent, « Ah, monsieur l'abbé, moi je veux les deux. » J'ai rien contre notre Seigneur Jésus-Christ, mais j'ai rien contre le monde non plus. J'ai rien contre le démon non plus. J'aime bien les deux. Alors le dimanche, à 10h à midi, bon, ben, je veux bien notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la semaine, je suis là, chaque chose à sa place. Hein. Bon, le bon Dieu, il peut attendre un peu. Je le retrouverai dimanche prochain à 10h. Mais pendant la semaine, moi, je vis comme un païen. Et c'est ce qu'on appelle le catholique libéral, le catholicisme libéral, c'est ça. Une main avec le monde, une main avec notre Seigneur Jésus-Christ, et puis on marche qu'un cas comme ça, en essayant de ne pas tomber ni d'un côté ni de l'autre, parce qu'on veut les deux à la fois. Celui qui veut à la fois notre Seigneur Jésus-Christ et le démon, il a le démon, ça c'est sûr. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne tolère pas un autre Dieu, un autre, de donner sa gloire à quelqu'un d'autre. S'il a devant lui un chrétien qui prétend être chrétien, mais qui veut donner la gloire qu'on doit donner à Dieu, à une créature, quelle qu'elle soit, le bon Dieu s'en va. Mais je ne l'ai pas mis dehors, il est parti tout seul. Mais vous l'avez parti tout seul, il est parti tout seul parce que vous l'avez mis dans une situation telle qu'il ne peut pas faire autrement que de partir. Comment voulez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rester dans une âme qui est pleine de choses matérielles? Pleine de choses matérielles. On s'en rend compte. Je donne souvent cet exemple de ça m'avait frappé, je venais de faire le Mont Blanc, et je redescendais du Mont Blanc, une journée magnifique, une vue extraordinaire. Et puis il y avait un jeune qui montait là avec son en train d'écouter de la musique rock plein les oreilles. Donc on les regardait et admirait les beautés de la création, on écoutait le silence merveilleux de la haute montagne et de voir les beautés de la haute montagne depuis le sommet du Mont Blanc, le toit de l'Europe. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il écoutait de la musique rock. Vous voyez? Et là, il faut, au niveau éducatif, au niveau de l'éducation des enfants, c'est quelque chose de fondamental. Hein. Attention, bien expliquer ça aux enfants. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Disez ça, expliquez ça, jour après jour à vos adolescents et à vos adolescentes. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il adorera l'un et haïra l'autre, ou il haïra le premier et adorera le second. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir à la fois la République maçonnique laïque anti-catholique et notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas possible. Il y a un choix à faire. Et même monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes trop exigeant, vous en demandez trop. Il faut quand même tolérer un petit peu les choses. Dieu n'a jamais toléré le péché. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Regardez les premiers martyrs, qu'est-ce qu'on leur demandait? Pas grand-chose humainement parlant. Mettez quelques grains d'encens là devant le charbon qui brûle sur un petit brasero là devant la statue de Jupiter ou de Mercure ou de Vénus ou de je ne sais pas trop qui. Voilà, vous mettez quelques grains d'encens, c'est tout ce qu'on vous demande, 3-4 grains d'encens, voilà. Et puis vous agenouillez devant la statue pour adorer notre Dieu à nous et puis on vous couvre d'or, voilà. Et si vous refusez, vous voulez absolument adorer votre Dieu crucifié, bon, eh ben, on vous donne en pâture au lion. Voilà. Monsieur l'abbé, quand même, moi je veux bien aller au ciel, mais les lions, ça me plaît pas beaucoup. Ben, faut faire un choix, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout avoir. On peut pas avoir, comme on dit vulgairement, le beurre et l'argent du beurre. Ça, j'aime bien cette phrase des pères, juste en dessous du cadre qui contient le 44e verset du chapitre 13 de Saint Matthieu. On achète le champ avec le prix de tous les biens qu'on a vendus. Lorsqu'on renonce aux voluptés charnelles et qu'on foule aux pieds tous les désirs terrestres par une obéissance entière aux lois qui conduisent au ciel. Donc ce trésor caché dans un champ, c'est le désir du ciel. Le champ dans lequel il est caché, c'est la perfection et la sainteté de la vie qui conduit au ciel. L'homme, lorsqu'un homme a trouvé ce trésor, il le cache pour le conserver, car le goût et le désir ardent des biens célestes ne suffisent pas pour défendre ce trésor contre les esprits mauvais. Si celui qui le possède ne s'efforce pas de le dérober aux attaques des louanges des hommes. Donc les gens du monde vont tout faire pour nous faire perdre ce trésor. Ils ne veulent pas que vous le découvriez, ce trésor. Et donc, ils ont peur que vous quittiez le monde, parce qu'ils veulent garder avec eux tous leurs petits copains du monde, et donc ils vont tout faire pour vous empêcher de chercher le vrai trésor d'une part, de le trouver d'autre part, et quand vous l'avez trouvé, ils vont encore faire tout leur possible pour vous empêcher de le posséder, ce trésor. Ils vont vous dire que c'est ridicule. Regardez les oppositions, par exemple. J'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois en tant que prêtre, les oppositions, même dans une famille chrétienne, parfois, malheureusement, lorsqu'un jeune homme de 16-17 ans, une jeune fille de 16-17 ans dans la famille commence à se tourner un peu vers le bon Dieu et pense à la vocation religieuse. Dans bien des cas, dans la famille libérale, c'est la catastrophe des catastrophes. Comment? Mais tu ne te rends pas compte, tout quitter pour poursuivre le bon Dieu, c'est quand même très imprudent pour les temps qui courent. Attends un peu, prends ton temps, réfléchis. Tu vas te faire dominer par les prêtres qui vont faire de toi ce qu'ils veulent. Fais un peu attention, tu sais, tu pourrais regretter. Fais un peu attention, mais fais attention où tu mets les pieds, etc., etc. Puis il faut finir tes études, il faut commencer par trouver une bonne épouse, et puis te fonder une famille, et puis après peut-être que tu auras des enfants qui vont penser à la vocation. Mais toi, non, 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 pas toi. Par contre, si le jeune homme vient et dit à ses parents, voilà, j'ai trouvé une jolie fille et je vais me marier. Eh ben, on ne fait pas tout tant d'histoire, hein. Alors là, il n'y a pas de problème. D'accord? Surtout si la fille est riche et elle vient d'une riche famille et qu'elle a toutes les choses que le monde souhaite. On accepte. C'est ça dans beaucoup de familles. On a l'impression que la pire des choses, c'est justement donner sa vie au bon Dieu. Alors on veut bien donner au bon Dieu le surplus, les choses dont on n'a pas besoin. Alors voilà, bon, j'ai un garçon qui n'est pas très malin, il est pas beau gosse, il est un peu laid, il est un peu malade, il est un peu rachitique. Bon, on le donne au bon Dieu, je veux bien. Mais le jeune playboy, là, l'aîné de famille, celui qu'on aime et blond aux yeux bleus, avec la casquette de baseball fissée sur la tête, alors celui-là, non, celui-là, c'est notre fils aîné, celui-là, pas question. Il faut méditer, mes chers frères. Donc, lorsqu'un homme a trouvé ce trésor, il le cache pour le conserver, que le goût et les désirs ardents des biens célestes ne suffisent pas pour défendre ce trésor contre les esprits mauvais. Si celui qui le possède ne s'efforce pas de le dérober aux attaques des louanges des hommes. Dans bien des cas, surtout quand il s'agit de parler de vocation, les amis deviennent des ennemis, hein, dans bien des cas. Alors, posons-nous la question dans le champ. Le champ, c'est aussi mon âme. Dans ce champ de mon âme, est-ce que j'ai le trésor? Est-ce que Dieu a caché un trésor de grande valeur dans mon âme? Qu'est-ce que j'en ai fait de ce trésor? Est-ce que je l'ai recherché d'abord? Est-ce que je l'ai trouvé ensuite? Est-ce que je le garde précieusement? Si je n'ai pas dit au bon Dieu le jour de notre mort, bah oui, le trésor, oui, je l'avais trouvé, il était dans mon âme, mais je l'ai cherché un peu, et puis on me l'a volé, on me l'a pris, le monde me l'a pris, moi j'ai oublié ce trésor, j'ai trouvé autre chose. Il ne faut pas dire au bon Dieu, le trésor que vous avez caché dans mon âme. Oui, effectivement, mais ça ne me plaît pas beaucoup. Je préfère changer de trésor, prendre un autre trésor, un trésor mondain, en espèce sonnante et trébuchante. Je ne veux pas de ce trésor que vous me proposez. Je ne veux pas de votre église que vous me proposez. Je ne veux pas de votre paradis que vous me proposez. C'est ce que disaient les serviteurs du roi qui revenait de voyage. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. C'est la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie la veille de Noël à Bethléem. Et puis il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est quoi? C'est mon âme. Le bon Dieu vient, il voudrait rentrer dans mon âme. Il frappe à la porte et puis il nous gêne. Oh zut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui débarque. Qu'est-ce que je vais dire? Bah écoutez, mon Dieu, je vous aime bien, mais j'ai pas le temps. Écoutez, là, vraiment, vraiment, vous arrivez à un moment très important pour moi. J'ai des choses extrêmement importantes à faire. Alors, bon, je vous aime bien, quoi, mais revenez dans 2, 3 heures pour le moment, j'ai autre chose à faire. C'est ça qu'on dit au bon Dieu. Très souvent. Alors, d'autres textes, des pères de l'Église, au milieu de la page 28, sur le polycopier. Ce trésor caché dans le champ, donc ce sont les deux testaments qui se trouvent dans l'Église. Lorsqu'un homme parvient à les atteindre, par une partie seulement de son intelligence, il comprend que ce champ renferme de grandes richesses. Il s'en va, il vend tout ce qu'il possède et il l'achète. C'est-à-dire, par le mépris, oui, la même idée qui revient tout le temps, par le mépris des choses temporelles, il achète le repos afin de s'enrichir ainsi du trésor de la connaissance de Dieu. Plus on connaît Dieu, moins on connaît l'homme. Plus on connaît l'homme, moins on connaît Dieu. Et ce qui est extraordinaire avec la connaissance de Dieu, c'est que la connaissance de Dieu, on ne peut jamais en avoir trop. On ne peut jamais trop connaître Dieu. C'est pour cela que la foi, l'espérance et la charité, ces trois vertus théologales, pour croire, pour prier et puis pour suivre la loi du bon Dieu, ces trois vertus théologales n'ont pas de juste milieu. Elles peuvent progresser à l'infini. Le mépris des choses temporelles, donc par le mépris des choses temporelles, il achète le repos. Par ce trésor, Saint Jérôme comprend le Christ lui-même. Ce trésor, c'est en fait l'état de grâce. Le trésor caché dans un champ, c'est la Sainte Eucharistie, le plus grand des trésors. Là, il y a un trésor d'un prix infini, c'est la divinité cachée dans l'humanité. Il n'y a pas de pays, de nation qui a un Dieu si proche que nous, les catholiques, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. Et quel dommage de voir que dans certains endroits, pourtant vous avez la Sainte Eucharistie tout proche de chez vous, là, quelques kilomètres parfois, et puis personne ne vient dans la journée. Notre Seigneur Jésus-Christ reste tout seul, personne ne s'en occupe, on n'a pas le temps, on a des tas de choses très importantes à faire. Ah, j'ai des tas de choses à faire. Ben oui, mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est là, il attend. Alors, cette divinité qui se cache dans l'humanité, ce n'est pas simplement la Sainte Eucharistie, cette divinité qui se cache dans l'humanité représente aussi l'état de grâce. Quand nous sommes en état de grâce, c'est la divinité qui se cache dans notre humanité. Nous devenons littéralement une image, une ressemblance de Dieu par la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Charité, c'est ça, hein, ce n'est pas d'autre chose que l'habitation en nous de la Sainte Trinité, c'est donc la crèche de Bethléem. Une âme en état de grâce, c'est la crèche de Bethléem. Pensons-y à ces. Alors que nous sommes quelques jours de la fête de Noël. Hein, dans quoi? Dans 5 jours, 6 jours, c'est la fête de Noël. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut? Il veut venir dans notre cœur. Mais il ne veut pas venir dans un cœur qui est tout sale. Il ne veut pas venir dans un cœur qui n'a pas été préparé. Il ne veut pas venir dans un cœur en te obligeant de rentrer avec un petit biche par la porte parce que la porte est fermée à clé. Le bon Dieu, il veut rentrer dans un cœur qui est préparé à le recevoir. Sinon, il ne reste pas, il rentre même pas. C'est pour ça qu'en général, avant de rentrer dans un cœur, le bon Dieu, il envoie quelqu'un pour vérifier que la place est bien propre. Exactement comme dans le monde moderne, quand un chef d'État, une grande personnalité politique, une haute personnalité du monde, vient dans une ville pour un rendez-vous diplomatique ou autre chose, et couche dans un grand hôtel, évidemment. Évidemment, le staff, si vous voulez, les gens qui sont autour du chef d'État qui arrivent dans cette ville, dans ce grand hôtel, ben, on voit avant l'arrivée du chef d'État, la veille, on envoie vite quelqu'un pour vérifier que tout est en ordre, que la chambre, que la suite royale a été préparée, que tout est impeccable, que tout est doré à leur fin. Hein? Eh bien, cette personne que notre Seigneur Jésus-Christ envoie pour préparer le terrain, vérifier s'il peut rentrer dans cette âme, c'est sa mère, hein? Sainte Vierge Marie. Pour ça, si vous voulez pouvoir garder notre Seigneur Jésus-Christ en vous, en votre cœur, je vous donne un petit conseil d'ami, c'est de bien garder une dévotion à la Sainte Vierge. Sans la dévotion vers Notre-Dame, Dame Marie, eh bien, on ne peut pas arriver à garder notre Seigneur dans notre âme. Là où est la reine et le roi, là où est le roi et la reine, c'est vrai, les deux choses sont liées. Mais en général, c'est la reine qui arrive en avance. Elle vérifie tout est propre. Et si elle voit que cette personne n'est pas digne de recevoir son fils, elle passe le chemin. Comme si vous voulez, les Hébreux qui quittaient l'Égypte. Avant de quitter l'Égypte, Dieu avait dit qu'il enverrait un ange exterminateur pour tuer les premiers-nés de toutes les familles. Pour protéger les Hébreux, qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur? Il leur a demandé de prendre du sang de l'agneau de la Pâque, et de badigeonner le poteau de la porte d'entrée avec le sang de l'agneau. Et l'ange exterminateur qui passerait dans les rues, il verrait le sang de l'agneau, c'est-à-dire le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sur le poteau de la porte, et là il saurait qu'il ne faut pas qu'il rentre pour tuer le premier-né de cette famille, parce que c'est une famille d'Hébreux. Eh bien, cette porte, c'est notre âme, c'est la porte de notre âme. Il faut que la porte de notre âme soit protégée contre l'attaque du démon, il faut qu'elle soit protégée par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Où trouve-t-on ce sang? Ce sang, on le trouve dans le sacrifice de la messe. Ce n'est pas pour rien que la Sainte Messe n'est rien d'autre que le renouvellement non sanglant du sacrifice de Calvaire. Donc il faut badigeonner la porte de notre âme avec le sang de l'agneau divin, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, il y a un trésor d'un prix infini, c'est la divinité cachée dans l'humanité. Est-ce qu'on est conscient de ces choses-là? Je pense que, il n'y a pas que moi qui dis ça, les tas de saints ont dit la même chose. Moi, je ne suis pas un saint, mais je suis ce que disent les saints. Ben, j'essaye en tout cas. Les saints disent que, justement, il y a un purgatoire spécial pour ceux qui sont même restés en état de grâce pendant toute leur vie, mais qui n'ont pas eu assez de désir du ciel. C'est saint Thomas qui répondait à sa petite sœur qui lui demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Et la première condition pour y aller. Et Thomas a répondu à sa sœur, un grand désir d'y aller. Est-ce que vous et moi, mes bien chers frères, est-ce qu'on a un grand désir d'aller au ciel? Ou est-ce qu'au contraire, le ciel représente quelque chose qui est pas très important? Est-ce que pour nos enfants, le plus important, c'est, avec cette fête de Noël qui arrive, est-ce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vient dans mon âme? Est-ce que le plus important, c'est d'avoir préparé l'avenir de notre Seigneur Jésus-Christ par une bonne confession? Ou est-ce qu'au contraire, le plus important, quand on pose la question aux enfants, c'est quoi la fête de Noël? Ah, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Ça m'a frappé dans un documentaire que j'ai vu sur Internet, qui était intéressant d'ailleurs, sur un peuple chinois, très pauvre. Et tout ce qu'ils mangent, c'est du riz, c'est tout ce qu'ils ont. Et le caméraman ou le reporter posait une question à un jeune, mais vous êtes sur la terre, pour quoi faire? Il a répondu, pour manger du riz. Pour manger du riz. Ben, c'est à peu près ce que les païens d'aujourd'hui, dans notre monde moderne, répondent. Mais pourquoi je suis sur la terre? Ben, je suis sur la terre. Pourquoi être sur la terre avant la fête de Noël? Je suis sur la terre pour acheter plein de cadeaux, pour changer mon téléphone portable et en prendre un nouveau avec encore plus de pouvoir. Et je suis encore, il faut que je change mon ordinateur, il faut que je change ça, change ça, change ça, change ça. Et puis acheter du caviar et du homard, et puis acheter une grande bûche glacée qui coûte très cher, et acheter tas de trucs et préparer la fiesta pour Noël. Et mon Dieu. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est devenu là-dedans? C'est ça le drame dans le monde moderne. Le drame du monde moderne, on a oublié le bon Dieu. Et quand il y a des gens qui ont encore un peu de bon sens, qui veulent rappeler un petit peu que la fête de Noël, c'est quand même d'abord la rêvée de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'ils mettent une crèche sur une place publique ou dans un édifice public, c'est haro sur le bonnet. Comment? Dans la République laïque, vous avez osé mettre une crèche? Non, monsieur. Si ça avait été un signe juif ou musulman, il n'y aurait pas eu de problème. Mais si c'est un signe catholique, alors là, plus question. Voyons, mes bien chers frères, quand on prenait une phrase toute simple, comme celle que je viens de vous donner, le verset 44, un seul verset de l'évangile, « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va, vend tout ce qu'il a, achète ce champ. » Regardez la richesse qu'il y a derrière ce verset. C'est ça l'exégèse. C'est aller chercher dans un verset qui semble anodin toute la richesse que les pères de l'Église ont découvert dans ce verset. Donc ce trésor caché dans mon champ c'est mon âme, le trésor c'est l'état de grâce. Quand j'explique aux enfants ces passages, j'utilise souvent l'image, certainement déjà donnée dans ce cours, mais ça fait un jour, je répète, il faut toujours répéter les choses. Du bateau, si vous voulez, qui doit traverser la mer et qui porte un trésor extraordinaire dans ses cales. Des tonnes d'or dans ses cales. Alors évidemment, les ennemis vont tout faire pour arraisonner le bateau et prendre la cargaison. Alors non seulement il faut se méfier des vents, il faut se méfier des courants, il faut se méfier des récifs, il faut se méfier des hauts fonds, mais il faut se méfier aussi des pirates. Il faut aussi se méfier des faux frais, il faut aussi se méfier des gens qui, à l'intérieur du navire, vont tout faire pour détourner le navire de sa vraie course. Mais c'est ce que fait le démon avec nous. Il empêche l'âme de découvrir le vrai trésor. Et non seulement il empêche l'âme de découvrir le vrai trésor qui est dans notre cœur, mais il va faire transformer ce trésor, faire donner l'impression à cette âme que le vrai trésor est ailleurs, dans les choses matérielles. Deuxième exemple que donne notre Seigneur, cette page 28, c'est les versets 14, 45 et 46. Donc, après l'exemple du trésor caché dans un champ, trésor de la perle précieuse. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de bonnes perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé, a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Nous verrons qu'après, il y a encore une autre comparaison. La comparaison du filet jeté dans la mer pour ramasser les poissons. On garde les bons et on jette les mauvais. Alors, cette perle, que représente-t-elle? Voyons un petit peu les textes. Les pères de l'Église, en bas de la page 28, encore une fois, dites-vous bien que je ne mets qu'une toute petite partie de ce que les pères disent. Hein. Si vous voulez avoir plus, eh bien, allez consulter Saint Thomas d'Aquin dans la chaîne d'or, ou Cornelius et Lapide. Pour la prédication de l'Évangile, en bas de la page 28, deux choses sont nécessaires. Séparation des affaires de la terre et vigilance. Deux conditions qui se trouvent exprimées dans cette comparaison du commerce. Dans les bonnes perles, on peut voir figurer la loi et les prophètes. Donc, deux choses sont nécessaires pour posséder le bon Dieu, séparation des affaires de la terre et la vigilance. Il ne s'agit pas simplement de garder l'état de grâce, d'avoir l'état de grâce, il faut le garder. Il faut le conserver. Donc il faut se confesser souvent pour être fort. Il faut communier souvent pour être fort. Il faut se mettre à jour pour prier et demander les grâces, les lumières dont on a besoin pour ne pas nous faire rouler par le démon. Deux choses. Donc séparation des affaires de la terre. Hein, là où est notre amour, là sera notre cœur. Donc si j'aime trop les affaires de la terre, j'ai plus de place pour aimer les choses de notre Seigneur. Et vigilance. Vigilance pour ne pas jouer avec le feu. Attention au péché de présomption. Si je joue avec le feu, je vais me faire brûler. La perle, qui est d'un très grand prix, c'est la science du Sauveur, le mystère de sa passion, de sa résurrection. Oui, c'est la même idée qu'on a vue auparavant avec l'histoire du trésor caché dans un champ. Lorsqu'un homme qui est dans le commerce a trouvé cette perle, à l'exemple de l'apôtre Saint Paul, il méprise le reste comme de la boue pour gagner notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on a trouvé notre Seigneur Jésus-Christ, on comprend que les choses qu'on a laissées derrière ne valaient vraiment pas grand-chose. Et comme, bon, c'est une comparaison qu'on peut prendre. Imaginez quelqu'un qui monte au sommet d'une montagne, une montagne qui est longue, qui est haute, difficile. L'ascension est difficile et dangereuse même. Il y a des rochers, il y a des crevasses, il y a de la glace partout. On veut monter au sommet du Mont Blanc, par exemple. Bon, voilà, vous voulez monter au sommet du Mont Blanc. Mais il y a bien les sacrifices pour monter quand on n'est pas habitué, c'est pas évident. On dit que c'est la vache, comme ils disent vulgairement, que c'est facile. C'est pas si facile que ça. Il faut savoir comprendre, il faut savoir utiliser un piolet. Bon, et il faut savoir découvrir où sont les plaques à vent, où sont les crevasses. Il faut savoir aussi interpréter les signes du temps pour ne pas se faire prendre par la tempête. Eh bien, monsieur, quand vous montez l'arête terminale, qui s'appelle l'arête des Bosses, qui est magnifique, qui monte au sommet du Mont Blanc après le refuge Valo. Eh bien, tout le monde, quand on n'est pas très habitué ou pas très en forme, ou un peu vieux, un peu trop ventripotent comme moi, eh bien, on a du mal. On fait trois pas, et puis on arrête, on souffle, puis on continue, on avance, on recommence deux, trois pas, on ressouffle de nouveau. Et c'est bien fatigant. Puis on dit, oh, ça finit pas cette arête. C'est vrai que l'arête des Bosses, elle est longue. On a l'impression qu'on n'arrive jamais en haut. On arrive au sommet d'une petite bosse. Ah, c'est le sommet. Ah non, c'est pas le sommet. Il y a encore 3-4 bosses derrière. Allez, on compte 3e, 4e bosse. Ah, bah c'est pas fini. Il y a encore 5 ou 6 derrière. Et puis on n'arrive pas. Et puis à un moment, l'horizon s'écarte, s'élargit. On est au sommet. Alors là, quand on arrive au sommet du Mont Blanc, comme ça, c'est un exemple, on va prendre d'autres. Le sommet du Mont Blanc, alors. C'est aussi fait beau, petit matin, soleil se lève. On oublie toutes ces fatigues. Toutes les fatigues pour arriver là. Le sac à dos qui est lourd, les épaules qui sont endolories, les pieds qui sont fatigués. La beauté de la chose. Les plus beaux souvenirs, ça n'a rien à voir avec l'exégèse, mais c'est pour donner des exemples, pour nous aider à comprendre par des exemples. Moi, je me rappellerai toute ma vie les plus beaux souvenirs de montagne. C'était il y a longtemps, hein. Je ne sais pas quel âge j'avais. 23, 24 ans, j'ai fait en solitaire l'aiguille verte dans le massif du Mont Blanc. C'est l'aiguille verte à couleur de glace qui s'appelle le couloir Whymper. Et j'étais parti à minuit du refuge du couvercle. Et j'arrive au sommet de l'aiguille verte, vers 4h15 du matin, en fin de saison, tout seul. Et il y avait un gars qui grimpait aussi tout seul, qui était un peu avec moi, mais on était chacun pour soi, on n'était pas encordés. Et chacun était en solitaire, et on arrive là-haut. Et au moment où j'arrive sur le sommet de l'aiguille verte, j'étais en pleine forme à l'époque, j'étais à peine fatigué. Le soleil qui se lève sur tout le massif du Mont Blanc, avec la mer de glace, avec le glacier d'Argentière, avec les grandes Jorasses, avec tous les grands sommets autour du Mont Blanc comme une couronne extraordinaire. Et c'est là où on oublie toute la, toutes les fatigues de la montée. Vous voyez, c'est pareil pour le ciel. Le jour où on arrivera au ciel, ça sera des milliards de fois plus joli que l'arrivée au sommet de l'Aiguille Verte par Grand Beautemps ou au sommet du Mont Blanc. Quand on arrivera au sommet de notre vie spirituelle, notre Seigneur Jésus-Christ, quand on rentrera dans le paradis, qu'on sera, je dirais, littéralement enveloppé par la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est à ce moment-là qu'on comprendra le pourquoi de toutes les souffrances d'ici-bas, toutes les croix d'ici-bas. Et on comprendra que ben, toutes nos difficultés pour rester en état de grâce pendant toute notre vie, tout notre combat constamment, parce que la vie catholique, c'est un combat spirituel, on comprendra que ce combat, c'était rien du tout. Rien du tout. Et malheureusement, l'inverse est aussi vrai. Imaginez les gens qui vont arriver devant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tous ces gens qui ont tout eu dans le monde. Ils ont eu toutes les richesses, toutes les choses du monde. Et ils ont eu la liberté, l'égalité, la fraternité, l'argent, tous les pouvoirs. Puis un beau jour, ils meurent, séparation entre leur âme et leur corps, et leur âme paraît devant Dieu. Et à ce moment, ils se rendent compte qu'ils ont les mains complètement vides, qu'ils n'ont rien à donner. Rien à donner. Et ils vont entendre cette parole terrible de notre Seigneur Jésus-Christ. « Éloignez-vous de moi, maudit, et allez au feu éternel. » Oui, c'est par ces petites paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on peut comprendre ces choses. Séparation des affaires de la terre, vigilance, demande notre Seigneur. Donc cette perle, science du Sauveur, mystère de sa passion, de sa résurrection, cette perle d'un grand prix, c'est donc la charité. Lorsque l'homme qui est dans le commerce a trouvé cette perle à l'exemple de l'apôtre Saint Paul, il méprise le reste comme la boue pour gagner notre Seigneur Jésus-Christ. Si j'ai notre Seigneur Jésus-Christ et que j'ai tout perdu, tout le reste, j'ai tout gagné. Si j'ai gagné tout le reste, toutes les choses mondaines, mais que j'ai perdu notre Seigneur Jésus-Christ, ayant perdu l'unique nécessaire, j'ai tout perdu. Cette pierre précieuse, c'est, disent les pères, la douceur de la vie céleste. Celui qui l'a trouvée vend pour acheter tout ce qu'il possède, une faute là. Cette pierre précieuse, c'est la douceur de la vie céleste. Celui qui l'a trouvée vend pour l'acheter. Oui, non, c'est bon. C'est celui qui l'a trouvée vend pour l'acheter tout ce qu'il possède. Celui qui a pu goûter parfaitement autant qu'il le peut la suavité de cette vie céleste abandonne bien volontiers pour elle tout ce qu'il avait aimé sur la terre. Il trouve désormais sans beauté tous les objets créés qu'il avait réduits, séduits dans leur apparence, parce que l'éclat seul de cette perle précieuse brille maintenant aux yeux de son âme. C'est au moment où on meurt, on passe devant le bon Dieu en jugement, qu'on comprend la grandeur de Dieu. Et quel dommage d'avoir gaspillé notre vie sur la terre en s'occupant que des choses matérielles, d'avoir oublié complètement les choses spirituelles. Qu'est-ce qui est plus important, notre corps ou notre âme ? Et relisez ces magnifiques paroles des pères de l'Église. Je vous conseille beaucoup, ceux qui veulent prendre un petit peu de temps, pour ça, pas simplement d'écouter le cours. Bon, je sais bien que c'est déjà pas mal que vous écoutiez le cours, ça prend une heure pour chaque cours, c'est pas évident de trouver le temps dans le monde moderne, mais je vous conseille, après avoir écouté le cours, reprenez dans la semaine, le cours de la semaine, reprenez les textes du polycopier, du chapitre que j'ai expliqué, des versets que j'ai expliqués au cours précédent, pour vous en imbiber. Oui, les choses doivent rentrer dans le tram comme par osmose. Celui qui a pu goûter parfaitement autant qu'on le peut la suavité de cette vie céleste abandonne bien volontiers pour elle tout ce qu'il avait aimé sur la terre. Qu'est-ce qui est au premier plan sur la terre, le bon Dieu ou les choses matérielles? Oui, il faut refaire un catalogue en quelque sorte de nos nécessités. Quelles sont les choses vraiment nécessaires? Quelles sont les choses importantes? Où sont les choses importantes? Le démon fait tout pour nous empêcher d'utiliser notre intelligence pour comprendre ces choses-là. Pour juger que les choses qui sont en fait tout à fait secondaires deviennent très importantes. Pour le monde moderne, dans le monde moderne, on voit très bien ça, quoi. Le téléphone portable tombe en panne, mais c'est la catastrophe des catastrophes, ben c'est la fin du monde. Par contre, si notre âme est en panne, ou en carafe, ou en état de péché mortel jusqu'au cou, ça c'est pas grave. Qu'est-ce qui est plus grave? Et quand je vois parfois des jeunes, ou même des moins jeunes, mais c'est plus visible chez les jeunes, des jeunes qui peuvent se confesser toutes les semaines s'ils le veulent, parce qu'ils vont à la messe traditionnelle toutes les semaines, et puis qui restent parfois des mois un tas de péchés mortels. Et puis finalement, ils viennent se confesser un jour pour une grande fête, avant la fête de Noël, par exemple. Alors on va se confesser parce que c'est Noël. Alors, ben voilà, mon père, ma dernière confession, c'était il y a 6 mois. Puis j'ai commis ça, ça et ça et ça, et puis une liste de péchés mortels impressionnante. Et je leur dis, mais ces péchés, vous les avez tous commis hier, ou vous les avez commis pendant ces 6 mois? Ah non, monsieur l'abbé, pendant ces 6 mois. Et vous êtes resté 6 mois en péché mortel? Ben oui. Et vous allez à la messe tous les dimanches? Oui. Vous avez la possibilité de vous confesser tous les dimanches? Oui. Et pourquoi vous n'avez pas pris cette possibilité? Pourquoi vous n'êtes pas allé vous confesser? Oh bon, je pensais que je me confesserais avant Noël. Et vous êtes resté à l'état de péché mortel pendant 6 mois? Vous êtes un fou? Faut vous enfermer, vous vous enfermez dans un hôpital psychiatrique, monsieur. Vous êtes un fou? Un fou d'avoir précédé, d'avoir voulu suivre les choses du monde, d'être resté dans le péché mortel pendant toutes ces années, tous ces mois, alors que vous aviez la possibilité de retrouver l'état de grâce. Quelle folie! Quelle folie, mes bien chers frères, que le monde moderne. Qu'au contraire, je vois des jeunes, ça arrive aussi, des moins jeunes, qui viennent se confesser, parfois même tard. Un coup de téléphone, monsieur le monsieur le monsieur le est-ce que vous pourriez me confesser? Mais bien sûr, venez tout de suite. Je ne peux pas venir avant tard, ça va, venez, je ne suis pas au lit avant tard, donc venez, venez, venez vous confesser, il n'y a pas de problème, je vous attends. Et puis, ils prennent la voiture, ils font 40 km, 50 km, ils viennent se confesser. Et parfois, c'est le vendredi. Vendredi par exemple. Ils auraient pu se confesser 2 jours plus tard, le dimanche. Parce qu'ils viendront à la messe dimanche. Non, ils viennent se confesser vendredi soir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en état de péché mortel, par exemple. Et ils veulent se confesser. Le démon a dû leur susurrer à l'oreille, mais tu vas revenir dimanche, ça vaut pas le coup, tu verras te confesser dimanche à la place, et puis commettre 3 ou 4 péchés mortels en plus, ça sera le même prix de toute façon. Non, ils ont compris la gravité du péché mortel, ils viennent se confesser tout de suite. Des gens comme ça, je donne l'absolution les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Et je donne même des pénitences assez légères dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que leur pénitence, ils viennent de la faire. Ils ont pris la voiture, ils ont fait 40 km, ils ont dépensé l'argent pour l'essence, ils sont venus pour se confesser. Il faut voir la joie de ces jeunes qui repartent, ces moins jeunes qui repartent après la confession, être mieux de discuter, ils repartent, ils ont trouvé la paix. Ils ont trouvé la paix. Donc faisons un choix, mes bien chers frères. Faisons un choix pour que nous puissions vraiment trouver sans beauté tous les objets créés qui avaient séduit par leur apparence mon âme dans le passé, parce que l'éclat seul de cette perle précieuse brille maintenant aux yeux de mon âme. Un homme qui cherche de belles perles et qui en trouve une de grand prix est celui qui recherche la compagnie des hommes vertueux pour mener avec eux une vie sainte. Et trouve le seul homme qui soit sans péché, notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être qu'il y en a un autre, hein. Il y a Notre-Dame aussi qui est sans péché. Ou bien celui qui, cherchant à connaître les préceptes dont l'observation le fera vivre saintement au milieu des hommes, trouve le précepte de la charité fraternelle qui renferme tous les autres au témoignage de l'apôtre. Donc la charité fraternelle, c'est l'habitation à nous de la Sainte Trinité. C'est ça la charité. L'habitation en nous de la Sainte Trinité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est présent dans notre âme. Si je suis en état de grâce, j'ai la charité en moi, j'ai notre Seigneur Jésus-Christ incarné en moi. Mon âme devient comme une petite crèche dans cette fête de Noël, c'est ça? Est-ce que mon âme peut devenir une crèche? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ accepterait de venir loger dans mon âme? Ou est-ce qu'au contraire, il s'enfuirait en courant à cause de la laideur et de la malice de mon âme? C'est ça la fête de Noël. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vient frapper à la porte avec Saint Joseph, avec notre Sainte Vierge Marie. Et puis Saint Joseph qui demande à la porte, est-ce que vous avez de la place pour lui? Il est venu chez les siens ne sont pas reçus. Autour de nous, personne n'en veut. Vous voulez? Il vient se donner à vous. Est-ce que vous acceptez? Et vous allez prendre dans votre âme ce petit enfant, ce petit bébé nouveau-né. Vrai Dieu, vrai homme, enveloppé de l'ange par la très sainte Vierge Marie. Et vous allez l'adorer. Vous demanderez permission à la très sainte Vierge Marie de le prendre dans vos bras et de le bercer comme une mère berce son enfant. Oh, la page 29. La perle précieuse représente à la fois le Christ, la très sainte Vierge Marie, la charité, qui est, selon saint Augustin, une perle précieuse sans laquelle tout ce que nous avons ne peut nous profiter, car elle est le collier du Christ. La perle est également le symbole de la vie contemplative dont le Christ a dit à sainte Marie Madeleine qu'elle avait choisi la meilleure part. C'est pour ça que ce collier de perles précieuses, on l'a mis autour de notre cou. Justement, parce que le cou amène à l'intelligence. L'intelligence qui est le lieu où notre Seigneur Jésus-Christ réside dans notre âme. Rappelez-vous cette phrase magnifique que notre Seigneur Jésus-Christ a dite à sainte Marie Madeleine, qui avait pourtant été une grande pécheresse dans le passé. Parce qu'elle a beaucoup aimé, lui sera beaucoup pardonné. Donc si nous avons beaucoup péché, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, si nous avons beaucoup péché dans le passé, aimons en proportion des péchés du passé. Et si on a énormément péché, énormément offensé le bon Dieu, faisons une bonne confession générale, et puis reprenons un petit peu l'amour, le joug de l'amour du bon Dieu. C'est pour ça que les retraites sont tellement importantes. Hein, que ceux qui n'ont pas encore fait les retraites... Ça s'inscrit là, sur les 6 retraites que je vais prêcher au mois de, je veux dire, en 2019. Donc là, il reste encore de la place à la première, la deuxième, la cinquième et la sixième. 1, 2, 5, 6, les autres sont pleines. Ces retraites sont nécessaires justement pour remettre une hiérarchie des valeurs dans notre âme. Les choses importantes au-dessus, les choses moins importantes en dessous. Et si on n'a pas de place pour tout le monde, on garde l'important, on jette les choses secondaires. Ces exercices sont absolument nécessaires pour nous. Il faudrait qu'on les fasse une fois par an. Moi, j'avoue que j'ai laissé passer plusieurs années sans les faire parce que j'étais tout seul, je ne pouvais pas les faire. Finalement, j'ai pris le taureau par les cornes la semaine dernière. Et j'ai fait les exercices Saint-Ignace tout seul chez moi. Ici, à Padiès, j'avais les conférences d'une retraite de 5 jours prêchée par l'abbé Vérité. Et j'ai beaucoup apprécié ces conférences, elles sont magnifiques. Bon, on peut faire ça quand on connaît bien les exercices, ce qui est le cas pour moi, parce que je les ai prêchés 300 fois, je les connais quand même par cœur. Mais j'ai beaucoup apprécié. Puis après ma retraite, tranquillement, je suis allé voir un vieux prêtre que je connaissais pour faire ma confession générale. Et ça m'a fait un bien fou. Je vois même, ouais, sur des choses, c'est peut-être idiot ce que je veux dire, mais même sur toutes simples, comme par exemple expliquer un cours, vous voyez, je me sens plus à l'aise pour expliquer un cours sur l'exégèse, sur l'interprétation de l'Écriture sainte par les pères, après une retraite, après une confession, une bonne confession générale, parce qu'on se sent plus léger. On a un cœur plus léger, une âme plus légère qui monte plus facilement vers le bon Dieu. La perle, disent les pères, est l'âme de chaque homme. La félicité éternelle obtenue par l'humilité. Si vous voulez connaître ou apprendre quelque chose de façon profitable, aimez être inconnu. Aimez être compté pour rien. Car c'est la connaissance la plus précieuse, à savoir connaître et se mépriser soi-même. Livre de l'imitation du Christ. L'humilité est donc la plus précieuse perle de l'Évangile. Mais sa valeur en est inconnue aux orgueilleux enfants d'Adam. L'humilité est incompatible avec l'orgueil. Donc si mon âme est pleine d'orgueil, il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ pourra pas rester dans cette âme. Donc cette perle représente pas simplement notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, représente pas simplement la charité, mais représente aussi la vertu d'humilité, représente notre Sainte Vierge Marie. Donc il y a plusieurs perles à notre couronne, de la couronne de la charité. Une de ces perles, c'est notre Sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception. La principale et la plus précieuse des perles d'où naissent toutes les vertus et tous les saints et d'où ils tirent leur beauté, leur valeur, c'est le Christ lui-même, disent les pères. Car sa divinité cachée dans son humanité est comme une perle cachée dans une coquille. Elle provient de la substance de la Vierge, de la rosée de l'Esprit, la plus immaculée par l'innocence de vie. Elle est celle qui a écrasé la tête du démon, qui écrasera la tête du démon. C'est la fête de l'Immaculée Conception. Donc méditons un petit peu sur cette chose-là. Est-ce que j'ai autour de mon cou la perle précieuse? Et quand le démon essaye de rentrer dans mon esprit, dans mon intelligence, il est obligé de passer par le cou pour rentrer dans la tête, dans l'intelligence, le siège de l'intelligence. Et s'il voit cette perle précieuse de la très sainte Vierge Marie, cette perle précieuse de l'humilité, cette perle précieuse qui est la charité, cette perle précieuse qui est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, eh bien il sort en courant parce qu'il sait qu'il ne peut pas passer. Cette perle est extraordinairement brillante par la sagesse, ronde par la possession de toutes les perfections, ayant le poids de la conscience, le toucher de la douceur, le prix de la sainteté. Ces textes sont splendides, devraient être lus à genoux. Portons-la, cette perle, sur la tête de notre esprit comme un ornement, sous notre front en confessant la foi, dans nos oreilles par l'obéissance à la loi ainsi qu'à Dieu et à nos supérieurs, sur notre cou et notre poitrine par l'amour, sous nos bras par l'exercice des bonnes œuvres, comme une bague sur nos doigts par le don de discernement des esprits, sur nos reins par la chasteté, sur nos vêtements par la modestie et la sainte dévotion pour obtenir la vie éternelle. Ce langage magnifique des pères. Les pères avaient le temps pour écrire, ils avaient cette intelligence prodigieuse. Certains des pères de l'Église sont certainement parmi les plus grandes intelligences que la terre ait jamais portées. Je pense à quelqu'un comme Saint Augustin, par exemple. Saint Augustin, Saint Bernard, Saint Thomas d'Aquin, ils ne parlent jamais pour ne rien dire. Quelle beauté dans ces textes, mais il faut les méditer. Est-ce que j'ai la perle de la sagesse autour de mon cou pour protéger mon intelligence et empêcher les miasmes du démon de pénétrer dans cette intelligence? Nous devons nous aussi devenir des perles précieuses pour qu'ainsi nous puissions les autres à imiter la très sainte vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ n'est pas seulement une perle précieuse, il est également la plus précieuse de toutes les pierres. Rappelez-vous l'Ancien Testament, ce roc qui va abreuver au temps de Moïse tout le peuple hébreu qui meurt de soif dans le désert. Donc Moïse va frapper le roc et l'eau va sortir de ce roc en plein désert pour abreuver les Hébreux, abreuver leurs troupeaux. Ce roc, c'est le Christ. Donc le Christ n'est pas simplement une perle précieuse, mais est également la plus précieuse de toutes les pierres. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ à Céphas. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors là, vous avez des textes magnifiques où les pères de l'église reprennent certains passages, entre autres du livre de l'Apocalypse. Quand ils parlent de la Jérusalem céleste, ils parlent des différentes pierres précieuses qui composent le soubassement et même les murs et les portes de la Jérusalem céleste. En parlant de toute une série de magnifiques pierres précieuses, bien les pères de l'Église font la même chose. Notre Seigneur Jésus-Christ est la plus précieuse de toutes les pierres. Il est une escarboucle, car il est la lumière du monde. Il est une émeraude, parce qu'il réjouit les anges par la fraîcheur et la verdure de sa grâce. Il est fort et invincible comme un diamant, produit la joie comme le sardonyx, guéri de la lèpre du péché comme la chrysoprase. J'ai aucune idée de ce que sont ces pierres précieuses, mais elles doivent être bien belles. Il provoque l'apparition des bonnes œuvres comme une jaspe spirituelle, aiguise l'intellect comme le béryl, donne la couleur et la vie céleste comme l'hyacinthe, supporte les angoisses de la passion comme la topaze. Il est la sardoine par la clarté, la splendeur, la chrysolite par sa charité d'or. Donc cette pierre précieuse réjouit les gens par la fraîcheur et la verdure de sa grâce. Est-ce que j'ai tout ça dans mon âme? Est-ce que j'ai cette pierre précieuse qui guérit la lèpre du péché? Et donc la Jérusalem céleste, contre conclusion des pères, a été fondée sur ces 12 pierres précieuses qui représentent les 12 apôtres du Christ. Dans le texte de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21, verset 14. Vous voyez comme il faut vraiment méditer toutes ces belles choses et comprendre la grandeur du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est déjà dans notre âme si je suis en état de grâce, mes mères chers frères. Autre comparaison, on commence à expliquer ça, parce que ça prend quelques minutes, en bas de la page 29, les versets 47 à 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant les poissons de toute espèce. Lorsqu'il est plein, les pêcheurs le tirent, et s'étant assis sur le bord du rivage, ils choisissent les bons et les mettent dans des vases et rejettent les mauvais. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise de feu. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Notre Seigneur Jésus-Christ va poser la question après avoir expliqué donné toutes ces comparaisons. Il va demander aux apôtres, est-ce que vous avez compris tout cela? Ils répondent, oui, j'ai compris. Alors, c'est un peu la même idée avec l'histoire du filet, comme la pierre précieuse, comme le trésor caché, le filet, ben c'est, Le filet qui ramène, si vous voulez, c'est la même idée. C'est le filet, au lieu d'aller bêcher le champ pour trouver le trésor, on jette le filet pour ramener les poissons. Et les poissons, en abondance, représentent le trésor de la pêche miraculeuse, la pêche surnaturelle. Après que Pierre, André, Jacques et Jean eurent entendu ces paroles, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, ils se firent, à l'aide de l'Ancien et du Nouveau Testament, un filet entrelacé des vérités de l'Évangile. Ils le jetèrent dans la mer de ce monde. Et il est resté tendu jusqu'à présent au milieu des flots pour prendre dans ses gouffres amers et trompeurs tout ce qui se présente, c'est-à-dire les hommes bons et mauvais, et qui prend toutes sortes de poissons comme filet. Vous voyez? Il faut méditer ce français magnifique. En plus, ces traductions de ces pères de l'Église sont là, faites par des gens qui avaient une bonne connaissance de la langue française. Les pères de l'Église ont des expressions extraordinaires. Moi, je n'ai pas suffisamment de latin et je n'ai pas le grec, malheureusement. Et pour comprendre les pères de l'Église dans le texte, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais je ne suis pas assez intelligent pour ça. Je ne peux pas lire directement les pères de l'Église dans le texte. Je n'arrive pas à les comprendre. Parce que le latin des pères de l'Église et le grec des pères de l'Église grecque sont des langues, des textes assez compliqués. Donc j'étais obligé de passer par les traductions, même quand j'ai utilisé Cornelius et Lapide. Latin Cornelius et Lapide, pas facile, hein, dans certains passages. Bon, j'ai étudié certains passages un peu en latin, quand je pouvais y arriver à peu près, mais j'ai travaillé Cornelius et Lapide en anglais. Après, je traduisais de l'anglais au français. Alors quand vous voyez des textes sur mon polycopie qui ne sont pas très bien, très bons français, c'est que c'est moi qui fais la traduction, c'est pour ça que ce n'est pas très bon. Donc, posons-nous la question, est-ce que j'ai le trésor caché dans mon âme? Est-ce que j'ai la perle précieuse en chapelet autour de mon cou? Est-ce que j'ai bien jeté le filet dans la mer? Et même si je passe toute la nuit sans pêcher comme les apôtres, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, sur la rive, il va me dire, vous avez pêché toute la nuit sans rien prendre? Ben oui, Seigneur, on n'a rien pris, rien. Jetez donc le filet à droite, hein, vous avez trouvé quelque chose. Mais Seigneur, il n'y a rien là à droite. Jetez le filet à droite. Et on jette le filet, on va faire une pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse, c'est évidemment tout le symbole de la grâce sanctifiante qui travaille en nous. En haut de la page 30. La Sainte Église est comparée à un filet parce qu'elle est confiée à des pêcheurs. Et c'est par elle que chacun de nous est tiré des flots de ce monde sur le rivage du royaume des cieux et arraché aux abîmes de la mort éternelle. Donc on a cette... On vit dans la mer du monde moderne, la mer du monde avec des tempêtes terribles, des flots terribles, et on peut être fracassé contre les rochers, contre les récifs, contre les coraux. Et notre Seigneur Jésus-Christ, justement, lance le filet pour récupérer ses âmes et les mettre à l'abri dans son bateau, le bateau de l'Église. C'est ça le rôle du filet. Le rôle du filet, c'est sortir les poissons qui sont dans les dangers du monde, et danger d'être entre autres mangés par les requins. Qui cherche ces petits poissons pour s'en nourrir, eh bien, on tire avec le filet, on tire ces âmes de la mer du monde moderne pour les mettre à l'abri dans les cales du bateau. Et le bateau avec les trois mâts de la foi, l'espérance et la charité, les sept voiles de ce bateau, les sept dons du Saint-Esprit, justement avec le vent du Saint-Esprit qui souffle sur ces voiles pour faire traverser, faire progresser le bateau va traverser, va nous amener au port du paradis, c'est ça l'image. Ce filet recueille des poissons de toute espèce, car l'Église appelle à la rémission des péchés les sages et les ignorants, les hommes libres et les esclaves, les riches et les pauvres, les forts et les faibles. Ce filet, c'est-à-dire la Sainte Église, sera tout à fait rempli lorsqu'à la fin des temps, la destinée du genre humain sera consommée. C'est pour cela qu'il est dit lorsqu'il fut plein. Donc, il y a toutes sortes de poissons, et le bon Dieu accueille tous les poissons qui acceptent de se faire prendre par notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas pris par surprise dans ce filet. Le filet de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ appelle les âmes dans ce filet. Il faut y aller. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Le filet va nous protéger. De même que la mer figure le monde, ainsi le rivage de la mer représente la fin du monde, l'arrivée dans un autre monde. C'est alors que les bons poissons seront recueillis dans des vaisseaux et les mauvais jetés au loin. C'est-à-dire que les élus seront reçus dans les tabernacles éternels, tandis que les méchants, privés de la lumière qui éclaire le royaume intérieur, seront traînés dans les ténèbres extérieures. Oui. Donc séparation entre les bons et les mauvais. On garde que les bons poissons. Dire les poissons, c'est les âmes en état de grâce. C'est les seuls qui pourront être admises dans ce bateau qui nous mène au port de la vie éternelle. Pendant cette vie, les filets de la foi contiennent indifféremment les bons et les mauvais, comme des poissons mêlés ensemble. Mais le rivage fera reconnaître ceux que contenait le filet de l'Église. Les poissons sont les croyants, les pécheurs, les apôtres, le filet, l'Église et l'Évangile. Donc acceptons de nous faire prendre par ce filet de l'Église et pas par le filet de l'Église de Vatican II, le filet du monde. Quelle différence y a-t-il entre cette parabole et celle qui précède, celle de livrer par exemple, de part et d'autre, les uns sont sauvés, les autres périssent. Toujours un choix. Notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui va mettre de certains côtés la haine au milieu. Le père contre la mère, les enfants contre le père, les pères contre les enfants, etc. Le bon Dieu met la division dans le bon sens du terme. Il met la division parce qu'il ne peut garder dans ce royaume que ceux qui veulent le reconnaître comme roi. Et ceux qui hurlent « Je ne servirai pas, je ne le reconnaîtrai pas comme roi », ne peuvent pas rester dans la maison, c'est absolument évident. Donc dans la parabole de l'ivraie, c'est la perversité des dogmes hérétiques qui est la cause de la perte des âmes. Dans la parabole de la semence, c'est le défaut d'attention à la parole de Dieu. Et dans celle-ci, c'est la vie criminelle des hommes qui sera pour eux un obstacle à leur salut, bien qu'ils aient pris dans le filet, c'est-à-dire bien qu'ils aient reçu la connaissance de Dieu. Le bon Dieu, encore une fois, nous laisse libres. Il ne va pas nous obliger à aller dans le filet si on ne veut pas y aller. Donc demandons, mes bien chers frères, ces jours qui précèdent la fête de Noël, demandons justement de savoir utiliser ces grâces que le bon Dieu a préparées pour nous pendant la fête de Noël. Ne pas oublier justement que le bon Dieu est là avec toutes ces grâces et qu'il ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on passe dans le filet pour pouvoir être mis dans la cale du bateau qui nous conduit à la vie éternelle. Voilà, je souhaite évidemment à tous ceux qui m'écoutent sur Internet, sur les sermons, sur le cours sur Saint Thomas, sur le cours sur l'Évangile, sur les Évangiles, je souhaite une sainte fête de Noël à vous tous. J'essaierai de donner des cours encore la semaine, les jours qui suivent Noël, donc le 26 pour le 26 et le 28 décembre. La seule semaine où je ne pourrais pas donner de cours, sans doute, c'est la semaine du 8 au 13 janvier. Cette semaine-là, je dois aller à l'île de la Réunion pour aller aider les fidèles là-bas qui demandent un petit peu mon aide pour faire un mariage aussi là-bas. On m'offre le voyage, alors je vais accepter. Voilà, mettons tout ça entre les mains du bon Dieu et l'astre Sainte Vierge Marie par une petite prière à la fin de ce cours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.